France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
I got a story to tell, you know that I cherish these. Hope it ain't too many feelings involved.
In this bitch, stuntin', poppin' bottles, getting drunk with these bitches, and when they leave, they get followed. Fall asleep with that bitch, and really don't know much about her. Then she let us in, we take all of your shit, and when you wake up, she help you try to find it. I love her. I be with bitches, that be with bitches, that be with niggas with riches. I tell her, get him, she say, I got you. I say, no bitch, I say, get him. And they so pretty, and they hell lengthy, he hit it and sleep on her titties. And she give us the worry, come through with AKs, it's a stick up, she scream like a victim, now you feeling so silly.
Bienvenue, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture jusqu'à 20h30. Alors nous sommes à la veille de Noël. Nous avons choisi ce soir un sujet un peu décalé pour, comment dire, pour respirer, sortir de l'actualité immédiate. Léonard de Vinci, d'ailleurs, on a pris en générique exceptionnellement de cette émission le morceau Mona Lisa par Lil Wayne, extrait de l'album The Carter numéro 4. Alors peut-être cela vous donnera une idée de cadeau de Noël, Léonard de Vinci, avec des livres dont on parlera, mais c'est aussi pour nous l'occasion d'anticiper sur un anniversaire qui sera évidemment très fêté en 2019, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, disparu en 1519. Le soft power de Léonard de Vinci, tel est le thème de cette émission ce soir, c'est-à-dire son influence, la puissance diplomatique de son œuvre, ce que l'on peut constater à travers par exemple les escarmouches qui sont déroulées ces dernières semaines entre l'Italie et la France. Quant au prêt des œuvres de Léonard de Vinci pour la grande rétrospective prévu cet automne au Louvre. Mon invité ce soir est Henri Zerner, historien de l'art, professeur émérite à l'université Harvard, spécialiste de la Renaissance. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Le soft power Léonard de Vinci, voici pour le sujet principal de cette émission ce soir. En seconde partie d'émission à 20h, nous conserverons notre invité habituel, invité innovation avec vous, Zoé Svez.
Il s'appelle Guillaume Heuguet, il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il a écrit une thèse sur les métamorphoses de la musique à travers YouTube. Alors qu'est-ce que c'est YouTube? Est-ce que YouTube a transformé la musique? On va essayer de répondre à ces questions et puis quelles sont les pistes de recherche aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre ces géants comme par exemple YouTube. C'est une espèce de petite invité innovation de fin d'année pour réfléchir ensemble.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de l'éthique des entreprises technologiques, l'éthique de la tech, et nous serons pour en débattre avec Amel Guiton de Libération et Elliot Lepers de l'association Le Mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est exceptionnellement enregistrée. Elle est réalisée par Véronique Villa avec en régie Pierrick Charles. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez également nous suivre en podcast sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone et même désormais sur Spotify, évidemment sur France Culture jusqu'à 20h30. Alors je commence cette émission en vous signalant l'exposition Andy Warhol au Whitney Museum de New York, pour ceux qui auront la chance pendant ces vacances de Noël et de fin d'année de se rendre à Manhattan. L'exposition qui a ouvert le mois dernier est visible jusqu'au 31 mars. Cette importante rétrospective s'intitule Andy Warhol, From A to B and Back Again, de A à B et on retourne, on y revient, en sens inverse. J'ai interviewé à New York le responsable de cette exposition Warhol. Il s'appelle Scott Rothkopf, le chief curator du Whitney.
My name is Scott Rothkopf and I'm 41 years old.
Je m'appelle Scott Rothkopf, j'ai 41 ans, j'ai grandi à Dallas dans le Texas et j'ai étudié l'histoire de l'art à Harvard. Je vis et travaille à New York depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé ma carrière ici comme l'un des éditeurs de Art Forum, magazine international sur l'art, et puis j'ai basculé au Whitney Museum il y a 9 ans, d'abord comme conservateur, puis en devenant chief curator, un conservateur en chef, il y a 3 ans, lorsque le Whitney a déménagé ici à Chelsea, au sud de New York.
Oui, alors,
l'exposition Warhol est une rétrospective qui nous excitait depuis longtemps et on y a travaillé depuis presque 10 ans. Ma collègue Dana De Salvo, une experte mondiale dans des Warhol, qu'elle a d'ailleurs connue à la fin de sa vie, vient de créer la première rétrospective Andy Warhol à New York depuis les années 90. C'est un événement important pour New York, ville à laquelle on associe souvent l'œuvre d'Andy Warhol, sa quintessence même. Et on lui consacre une partie importante de notre bâtiment ici au Winné, une rétrospective de son travail en montrant des aspects peu connus ou sous un nouveau jour de son œuvre, par exemple ses illustrations commerciales dans la publicité ou encore ses œuvres abstraites à la fin de sa vie. Tout ça constitue l'ensemble de son œuvre. Et tous ceux qui visiteront cette exposition pour voir cette œuvre, qu'on habite New York ou qu'on vienne de plus loin ou de partout dans le monde, s'apercevront que c'est une véritable célébration du génie de Warhol. Il fut un tel game changer, un artiste qui a changé l'art dans tellement de directions, au niveau du marché de l'art, au niveau de la publicité, il est allé dans les magazines, il a fait des films, tout ce qu'il a inventé culturellement au sens large est devenu vrai. Cette rétrospective vise donc à rendre compte de l'ampleur de la vision de cet artiste avec le meilleur, mais aussi les aspects plus controversés de son œuvre, parfois terrifiants. Et c'est cette conversation que l'on veut avoir avec les visiteurs de cette exposition.
Let me tell you about my girlfriend Mona Lisa. She let somebody take a picture so she could be a fashionista. She said she wanna be a model. But what she wanna be a model for? She told me that she wanna travel, walk the rumors in Milano. But I told her that I loved her, adored her, I need her, my Lisa. She told me trust her, I want her, I wanna trust her. And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas, they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa.
Après ce court entretien avec Scott Rodkoff sur France Culture, chef curator du Whitney Museum à New York, responsable de la grande rétrospective Andy Warhol qui a commencé donc au Whitney et qui s'y tiendra jusqu'au 31 mars. On commence par l'actualité un peu comme chaque semaine au début de cette émission. Actualité Léonard de Vinci, puisque cette émission lui sera largement consacrée. Avec notre invité Henri Zerner, historien de l'art, professeur émérite à l'université Harvard, et notre chroniqueuse Zoé Sfez. On va beaucoup parler, Zoé, de Leonardo en 2019.
Et oui, puisque donc c'est le 500e anniversaire de sa mort. Alors il faut aussi dire que c'est aussi le 500e anniversaire de la naissance de Catherine de Médicis en 2019, et que c'est le début de la construction du château de Chambord. Donc il y a une espèce comme ça de tautologie renaissance en 2019. Alors évidemment, énormément d'événements. En France, en Italie et en Europe. En France, tout d'abord, plus de 500 événements dans toute la région de la Loire, donc autour d'Amboise, autour du Clos Lucé, évidemment partout, tout au long de l'année qui vont s'égrener, et une grande exposition au Louvre qui doit démarrer en octobre, donc dans, disons, quasiment 9 mois, qui doit durer d'octobre à février 2020. Et cette exposition est très attendue, elle est, disons, très fortement préparée par les équipes du Louvre qui ont revu à cette occasion toutes les archives dont on dispose en France sur Léonard. Donc c'est vraiment l'occasion, comme souvent, de revisiter comme ça le personnage. Et là, avec effectivement cette crise, on peut le dire, qui est une crise en fait plus politique que culturelle entre l'Italie et la France, puisque en novembre, mi-novembre, il y a un peu plus d'un mois, eh bien la nouvelle équipe italienne qui est aux commandes du ministère des Culturale, comment dire en italien, c'est-à-dire le ministère de la Culture, a fait une espèce de sortie. La nouvelle secrétaire d'État aux biens et aux activités culturelles s'appelle Lucia Bergonzoni et elle a déclaré dans le Corriere della Sera qu'elle voulait revenir sur l'accord qui avait été conclu entre la France et l'Italie par son prédécesseur sur cette fameuse exposition, cette exposition où la France demande à ce que l'Italie lui prête plusieurs œuvres de Vinci. Je rappelle que la France dispose de 5 œuvres de Léonard de Vinci et il était prévu que l'Italie lui prête le portrait de musicien qui est à la Pinacothèque de Milan, la Scapigliata qui est accrochée à Parme, l'homme de Vitruve, le fameux, et on va en parler, à la Galleria dell'Accademia à Venise, et Saint-Jérôme qui est lui au Vatican. Il y avait un accord avec Dario Franceschini. En échange, la
ancien
France,
ministre de,
ancien
de la
ministre
culture,
de la culture italien, en échange, la France devait d'une part prêter plusieurs Raphaël pour une exposition à venir l'année suivante, et puis la France avait quand même décidé de faire cette grande exposition en octobre, histoire de laisser le temps à l'Italie de faire ses propres expositions sur Léonard de Vinci, et la France devait et doit toujours d'ailleurs prêter deux très très importants da Vinci en échange, la Belle Ferronnière et Saint-Jean-Baptiste, alors que le Louvre ne prête jamais deux de Vinci en même temps. Donc là, il y a cette espèce d'effort du Louvre. Et donc, cette nouvelle secrétaire d'État italienne, Lucia Bocconzoni, déclare dans le Corriere della Sera, Léonard est italien, il est seulement mort en France. Ses prêts placeraient l'Italie à la marge d'un événement culturel majeur. On l'a compris, c'est pas tout à fait vrai. Évidemment, l'enjeu est plutôt politique, puisqu'on sait que c'est cette nouvelle équipe, on peut le dire, du gouvernement populiste de Salvini, et que clairement, le Louvre, d'ailleurs, ça de tout commentaire, on ne sait pas tout à fait ce qu'il en sera. Il est tout à fait possible que les négociations avancent d'ici là, parce qu'on a 9 mois devant nous. Il est évident qu'il s'agit plutôt d'une question politique. Deux petits mots de quelques grandes expositions qui auront lieu, notamment à Madrid, en Espagne, où vont être exposées au Palacio de la, et là j'ai très très peur de mal le dire, de la Sala Jaras, le Codex Madrid 1 et 2, et la Tavola Lucana, qui est un autoportrait de Léonard de Vinci, qui a été découvert en 2009 par un historien italien, et qui est considéré comme étant le vrai visage de Léonard de Vinci. Donc ça sera visible à Madrid pendant tout le printemps prochain, et en Angleterre, en Grande-Bretagne, eh bien la collection royale va nous sortir plus de 200 des dessins de Léonard de Vinci qui vont voyager dans 12 villes du Royaume-Uni tout au long de l'année. Donc vous voyez, il y a quand même des grands moyens dans toutes les capitales européennes, c'est dire la puissance de ce soft power de Vincien, si on peut le dire.
Avec nous Henri Zerner, historien de l'art, professeur émérite à l'université Harvard, spécialiste de la Renaissance. Bonsoir monsieur, peut-être une réaction sur cette bataille franco-italienne autour de Léonard de Vinci.
Il est triste que des disputes politiques entravent les expositions. Ouais. Cela dit, ce sont des œuvres importantes, mais au fait, on ne prête pas les œuvres capitales.
Oui, qui restent en France.
Ça n'est pas la Vierge au Rocher, n'est pas la Sainte Anne.
Ni bien sûr la Joconde.
Sans parler de la Joconde.
Qui ne voyage plus, bien qu'elle ait voyagé, et on y reviendra tout à l'heure.
Mais elle ne voyage pas, mais elle est partout.
Elle est partout. rappelons quand même que ses œuvres, pour certaines d'entre elles, sont arrivées en France.
Très tôt, naturellement.
Léonard de Vinci lui-même. Grâce à l'invitation de François
Ier.
Donc ce n'est pas des œuvres que nous avons volées.
Non, avant François Ier, Léonard de Vinci avait des rapports très liés avec les rois de France, déjà Charles VIII et surtout Louis XII.
Qui voulait même lui déjà emmener la Seine.
Qui voulait enlever la Seine. Heureusement, on l'a découragé.
Et du mur. Oui.
Napoléon a essayé ensuite aussi.
Oui, Napoléon aussi. Mais elle est restée. Enfin, ce qui en reste est resté, si j'ose dire. Car il n'en reste pas grand-chose.
Vous êtes spécialiste d'Ingres. D'ailleurs, je crois que vous préparez un ouvrage sur Ingres.
Spécialiste d'Ingres, c'est trop dire.
Et vous préparez un livre.
Je m'intéresse beaucoup à Ingres et je prépare un livre sur une composition d'Ingres qui représente Virgile lisant l'Énéide à Auguste, Livy et Octavie.
Alors donc du coup, vous connaissez évidemment cette œuvre qui s'appelle La mort de Léonard de Vinci, où Léonard de Vinci meurt quasiment dans les bras de François Ier.
Et tout ça nous amène, parce que c'est fondé sur la biographie de Vasari, et on ne comprend absolument rien au personnage de Léonard, sans partir de cette biographie de Vasari, qui est tout à fait extraordinaire.
Donc c'est un contemporain pour le coup?
Non.
Un peu après?
Enfin!
Presque,
pour être précis. Vasari naît en 1510, si je me souviens bien.
Donc il y a 9 années, ils se croisent pendant 9 ans. Ouais.
Oui, et Léonard est en France à partir de 16. Donc il a 3 ans, le petit Vasari. il n'a certainement pas connu. Ils ne sont pas vraiment contemporains. Et en fait, quand il publie sa biographie, en 1550, c'est déjà le mythe de Léonard de Vinci qu'il rapporte. Il ne l'a pas connu, il n'a pas vu les œuvres, la plupart des œuvres. Et les œuvres dont il parle le plus, ce sont précisément les œuvres qu'il n'a pas vues, en particulier la Joconde. Et il y a déjà chez Vasari le mythe de la Joconde avec le sourire et une anecdote qu'on dit qu'il a inventée, mais à mon avis c'est plutôt qu'il a recueilli toutes sortes de choses qui se disaient. Léonard de Vinci était certainement déjà un personnage mythique quand il écrit sa biographie. Et il raconte que pour qu'elle sourie, parce qu'elle avait l'air un peu morne, il faisait constamment, quand elle posait, jouer des musiciens ou avoir des bouffons qui faisaient des blagues, afin qu'elle ait l'air animée. La vraisemblance de la chose est minime, mais on voit que déjà... Le mythe de la Joconde et de son sourire est déjà bien en place.
Alors, une manière comme une autre de commencer une émission sur Léonard de Vinci, l'un des peintres sur lequel la bibliographie est la plus dense, c'est peut-être de parler des livres. Alors, ce soir, nous nous appuyons pour cette émission sur la biographie de Léonard de Vinci qu'a publié Walter Isaacson chez Simon & Schuster, biographie qui sera publiée en français le 7 mars prochain aux éditions Quanto en Suisse, les presses polytechniques et universitaires romandes de l'EPFL. Vous avez lu ce livre, Henri Zerner?
Je l'ai lu, c'est beaucoup dire, parce que je l'ai lu récemment. Et
vous n'en êtes pas un grand
très
fan?
Je n'en suis pas un très grand fan, non. Mais en partie parce que c'est très peu une biographie. Et ça se prétend être un livre sur Léonard.
C'est pas un historien de l'art non plus.
Et ça n'est pas un historien de l'art. Du coup, c'est un journaliste. C'est un biographe. Je n'ai rien. C'est très bien les journalistes et les biographes, mais ils ne sont pas forcément leurs effusions sur les œuvres d'art ne sont pas forcément ceux qui font du mieux. Mais en revanche, les parties qui sont proprement biographiques sont tout à fait intéressantes, et en particulier le chapitre où ils discutent les problèmes réels. De Léonard, de se faire payer,
c'est les oui, son pensions, modèle économique, son modèle expérimentation,
les rapports avec les mécènes, et tout ça est tout à fait intéressant.
On l'a interviewé, on l'écoutera tout à l'heure, et effectivement, il l'utilise. Il avait écrit une biographie célèbre de Steve Jobs, une autre de Einstein, donc il utilise un peu Léonard de Vinci comme un modèle pour l'innovation, l'expérimentation, la recherche et le développement, le travail collectif, voire même presque les hackathons avant l'heure. Et cet aspect-là du livre est intéressant. Alors, à la place, peut-être, vous recommanderiez plutôt quoi laisser sur la Joconde, signé André Chastel, par exemple?
Ah oui, ça, c'est un très joli livre, très précis. Ben, c'est sur le livre, c'est sur l'invention de la Joconde, pour ainsi dire, qui est déjà inventée par Vasari, puisque Vasari n'a jamais vu la Joconde.
L'illustre incomprise.
L'illustre incomprise, Mona Lisa. C'est un très joli livre, en particulier, qui montre l'ascension, pour ainsi dire, de la Joconde à celle d'une vedette internationale, au même titre qu'Andy Warhol, disons.
Tout ce qu'a écrit d'ailleurs sur Léonard de Vinci, André Chastel, est à recommander.
Oui, 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 c'était un très grand historien de l'art, essentiellement de l'art florentin, et Léonard de Vinci, naturellement. Beaucoup de travail aussi sur les écrits de Léonard.
Sinon, dans d'autres livres de référence qu'on peut citer, il y a le Kenneth Clark, Léonard de Vinci chez Penguin, celui de Frank Zollner, plus grand public, chez Taschen, la biographie de Vasari qui fonde le mythe Léonard, vous l'avez dit. On peut citer aussi la biographie de Carlo Vecce chez Flammarion, sur Léonard de Vinci. Et puis, quelques petits textes comme ça, celui de Paul Valéry, Introduction à la méthode Léonard de Vinci en folio, celui de Freud, sur lequel on reviendra, l'extraordinaire livre de Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, publié au PUF. Et puis, vous pensez quoi de Daniel Arras, qui a publié plusieurs Léonard de Vinci aussi?
Oui, moi, je suis moins enthousiaste, mais il est intéressant. C'est quelqu'un qui regarde réellement les œuvres, qui fait des observations tout à fait...
Un peu jargonnant, parfois.
Un peu à la mode, disons.
Pourquoi Léonard de Vinci est un artiste si important? Question un peu banale, mais que je pose à l'historien de l'art. Pourquoi c'est si important, son œuvre?
Alors d'abord parce que c'est un extraordinaire innovateur. Et Vasari, il joue un rôle dans les vies de Vasari. C'est lui qui ouvre la période moderne, c'est-à-dire la troisième partie. Les vies de Vasari sont divisées en trois parties, et la troisième partie est l'art moderne, c'est-à-dire l'art de son temps, et pour lui, et depuis pour tout le monde, c'est Vasari qui réellement ouvre une nouvelle ère de la peinture. Et des gens comme Michel-Ange, comme Raphaël, dépendent nécessairement de Léonard, qu'il le veuille ou non. Michel-Ange, sans enthousiasme, Raphaël, évidemment, entièrement, et d'autre part, donc là, il y a un rôle réel d'initiateur de la peinture, et d'autre part, dès le milieu du XVIe siècle, Léonard de Vinci est un mythe. C'est l'homme qui fait tout, qui sait tout faire et qui est... Le personnage d'Angrezet est très intéressant parce qu'il est hors norme. Il est inquiétant, il fait des blagues.
L'homme ultime de la Renaissance, écrivez-vous dans un article de la New Review of Books.
Oui, pour Vasari, il y a quelque chose qui dit clairement qu'il ne croit ni à Dieu ni à diable, sauf in extremis quand il prend l'extrême onction.
Comment est-ce qu'on peut justement lire ce personnage total, en plus autodidacte, parce qu'il n'a pas reçu une formation noble, il a reçu une formation comme ça un peu à la va-vite, puisque c'était un fils naturel. Avant lui, quand même, il y a eu Masaccio, il y a eu des gens qui ont inventé la perspective, il y a eu Brunelleschi, par exemple, qui, un peu comme lui, est un orfèvre, qui est aussi un peintre, qui est aussi un sculpteur, qui, pour son tout premier chantier, réussit à quand même faire la coupole de Santa Maria del Fiore et de Florence. Donc, il y en a eu comme ça des hommes un peu, disons, Toto est déjà très doué dans différents domaines avant Léonard de Vinci. Pourquoi est-ce que c'est surtout lui qui marque et qu'il éclipse ces figures-là?
Alors, on ne peut pas dire qu'il est autodidacte. Hein. Il était dans l'atelier de Verrocchio, qui était...
Extraordinaire et qui maîtrisait beaucoup
un des principaux. Et c'est grâce à son oncle qu'il entre dans l'atelier de Verrocchio, qui est le meilleur atelier de Florence. Donc... Alors, il est autodidacte, certainement, du côté scientifique. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Mais comme peintre et sculpteur, oui. Il sort du principal atelier de Florence. Alors, évidemment, il y a eu d'autres génies, Brunelleschi, naturellement. Mais Brunelleschi n'a pas eu cette aura qui est liée en partie parce que au côté inquiétant de Léonard. C'est pas quelqu'un qui est convenable. Et ça, c'est intéressant chez Vasari, parce que ça gêne Vasari. Et à la fin, il le réconcilie avec la religion et avec le pouvoir. Mourir dans les bras de François Ier, c'est une reconnaissance sociale ultime. Et il dit littéralement, sentant qu'il ne pouvait pas avoir de plus grand honneur, il meurt.
Alors, on va sauter un petit peu les années, notamment à travers la Joconde. Quelque chose va se passer dans ce tableau qui va le rendre, pour le coup, tableau déjà très célèbre, déjà mythe, mais mondialement, célèbre à partir de son vol, puisque le tableau est volé le 22 août 1911 au Louvre. C'est un immense débat, une vie polémique quant à la sécurité d'une part de la Joconde. Mona Lisa sera finalement retrouvée fin 1913 en Italie, où Vincenzo Perugia, le voleur, est arrêté. Et le 4 janvier 1914, le tableau est enfin raccroché au Louvre. Ça va jouer un rôle important dans l'histoire du tableau, Henri Zerner.
Alors ça a eu une très grande importance dans l'histoire du tableau, parce que... ça lui a donné une publicité énorme grâce aux caricatures. On a inquiété Apollinaire et Picasso parce qu'ils avaient déjà fait des blagues avec des sculptures ibériques. Et donc, on les a soupçonnés. Et tout ça fait un énorme retentissement dans la presse. Mais la Joconde était tout de même déjà un peu une star avant. Ça commence vraiment avec le romantisme. Ensuite, vers la fin du siècle, c'est le moment où on essaie de reproduire la Joconde, et là, il y a tout un côté. Et puis, alors, avec le vol, alors là, c'est le
vol qui est fait patriotisme italien.
Par patriotisme italien.
On y était déjà.
En fin de compte, il l'a rendu. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Il l'a apporté en disant, voilà, je veux qu'elles soient en Italie. Évidemment, on l'a tout de suite arrêté.
Le tableau est revenu en France.
Le tableau est revenu en France.
Alors, je vous propose d'écouter maintenant une mise en scène de ce vol historique de la Joconde, réalisé par la radio française en 1950, à l'époque RTF, avant même l'ORTF, donc ancêtre de Radio France. Le producteur en est Pierre Minet et les interprètes, car il s'agit bien d'une fiction basée sur des faits réels. Les interprètes donc en sont Bernard Véron, Jean Lemaître et Richard Flagey. Écoutez bien, c'est un document d'époque, une archive. Ina.
Voulez-vous écouter maintenant « Souvenez-vous », une émission de Pierre Minet. Aujourd'hui, le vol de la Joconde, avec les témoignages de messieurs André Varnaud et Héron de Villefosse, conservateurs du musée de l'Île-de-France, avec le concours de Bernard Véron, Jean Lemaître et Richard Flagey. Réalisation Raoul Auclair.
On a volé la Joconde. Quand, dans la soirée du 22 août 1911, retentit partout ce cri des vendeurs de journaux, une immense émotion s'empare de Paris pour bientôt gagner toute la France. La Joconde. La plupart de ceux qui déplorent ainsi sa disparition ne l'ont jamais vue. Beaucoup même entendent pour la première fois prononcer son nom. Mais celui-ci, avec la magie de ses trois syllabes et le mystère que depuis des siècles elle véhicule, hypnotise la foule que brusquement il soumet au pouvoir surnaturel qu'exercent les grandes œuvres d'art. La Joconde perdue, c'est pour tous ces gens généralement si prosaïques, un événement plus navrant encore que l'assassinat d'un président de la République ou la mort d'une actrice adulée. À tel point qu'il faudra attendre juillet 1914 et la mobilisation pour retrouver pareille excitation, pareille fièvre populaire. Et comment le vol s'est-il effectué? Pour tâcher de le savoir, commençons par interroger le conservateur du musée du Louvre, Monsieur Bénédicte. Monsieur le conservateur.
C'est vrai, la Joconde est disparue. Mais nous ne pouvons croire qu'elle a été emportée. Le Louvre est immense, il a des kilomètres de corridors, de salles, d'ateliers. Et si on l'a cachée dans un coin, il faudra plusieurs jours pour la retrouver. Ce n'est d'ailleurs pas possible qu'on ait volé la Joconde. On ne vole pas un tableau qui n'a pas de prix, qui vaut des millions. Qui l'achèterait d'ailleurs? Tout le monde connaît l'œuvre de Léonard de Vinci. Oui, je sais bien ce que vous allez dire. C'est peut-être un fou, un collectionneur fanatique qui a fait voler le tableau pour le garder jalousement, pour avoir seul cette jouissance artistique, posséder la Joconde chez soi. Évidemment, ce n'est pas impossible. Mais ce serait bien extraordinaire, tout de même. Si cela est, il a fallu des complices. Or, notre personnel de gardien est au-dessus de tout soupçon. Et le vol commis par un étranger est inadmissible, sans complicité. Comment aurait-on pu sortir la Joconde, qui mesure 70 cm de haut sur 65 cm de large? Oh non, je ne peux pas y croire. Le tableau a disparu depuis lundi. Ce jour-là, le musée est fermé pour le nettoyage hebdomadaire. Mais on y admet cependant les photographes autorisés à faire des reproductions. Pour prendre leurs clichés, on permet aux opérateurs de déplacer les œuvres afin d'avoir l'éclairage convenable. Ces déplacements expliquent pourquoi lundi, on ne s'est pas aperçu que la place occupée par la Joconde était vide. Actuellement, nous procédons à une enquête minutieuse.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is it your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. Are you real? Are you real, Mona Lisa?
Or just that
cold and lonely, lovely way?
À l'instant, trois morceaux emblématiques signés Nat King Cole, Elvis Presley et James Brown, qui tous les trois ont rendu hommage à leur façon à Mona Lisa. Vous écoutez France Culture, Soft Power jusqu'à 20h30. Ce soir, on parle du Soft Power de Léonard de Vinci à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, 1519-2019. Nous sommes avec Henri Zerner, historien de l'art, professeur émérite à l'université Harvard. Faisons un tour un peu géographique, Henri Zerner, des œuvres. Où est-ce qu'elles sont? Pourquoi elles sont si éparpillées avec des pays qui ont d'importants fonds et d'autres qui en sont très dépourvus, même en Europe?
C'est en partie, je pense, parce que Léonard lui-même était passablement éparpillé.
Il avait la bougeotte.
Il avait la bougeotte. Il abandonnait les choses à mi-chemin. Néanmoins, le centre, disons, la quintessence de l'œuvre est au Louvre grâce à François Ier. Parce qu'il arrive avec les œuvres qu'il a en fait conservées, qu'il aurait dû livrer, mais qu'il a conservé parce qu'il ne se décidait jamais à terminer, parce que c'était jamais absolument comme il voulait. Donc il y a ce noyau en France. Il y a aussi la question des manuscrits et des dessins qui alors ont été dispersés. Et donc là, il y a plusieurs centres, les principaux étant l'Ambrosienne et les collections royales anglaises. Plus des manuscrits, l'Institut de France, Madrid, etc., jusqu'à Bill Gates. Et alors, il y a d'autres peintures qui, au cours des âges, qui sont passées en main privée. Alors, en Italie, il y a une œuvre capitale. Ce qui est resté à Florence, c'est une annonciation qui est alors tout à fait dans la manière de l'atelier de Verrocchio, une œuvre de jeunesse. Quand il travaille dans l'atelier qui est typique de l'art florentin, c'est très beau, mais ça n'est pas encore le Léonard de Vinci qu'on connaît maintenant. Et en revanche, il y a probablement la première œuvre stupéfiante de Léonard, qui est l'Adoration des bergers, qui est d'une totalement inachevée et qui est d'une telle complexité que, comme le disait Friedberg, un grand historien de l'art de la Renaissance, on ne voit pas comment il aurait même pu l'achever. En tout cas, lui-même a dû s'en rendre compte que, selon les exigences qu'il avait de la finition, il n'y arriverait jamais, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Dans son état inachevé, c'est stupéfiant. Donc ça, c'est resté à Florence. Il y a le Saint-Jérôme.
Au musée du Vatican.
Au Vatican.
Aussi, d'ailleurs, inachevé.
Totalement inachevé. À l'Ambrosienne, il y a le portrait de musicien, dont l'authenticité, dont l'autographie
est disputée. Et puis, il y a des œuvres à la National Gallery, donc aux États-Unis.
Ça, c'est la dernière œuvre absolument certaine, authentique, qui est à Washington, qui est Ginevra de Benci, qui est un tableau fait de jeunesse, qui est encore très proche de Verrocchio, et qui a fait à l'époque, était le plus gros prix. C'était plus de 5 millions de dollars. Ça appartenait au prince de Liechtenstein, et c'était un gros coup pour la National Gallery de Washington. Le directeur était un de mes amis. C'était un triomphe.
Zoé.
Il y a aussi toutes les œuvres de Léonard de Vinci qui ne nous sont pas parvenues, et notamment les sculptures, parce que c'était un grand sculpteur. Il y a plusieurs sculptures dont on sait qu'elles ont existé, qu'elles ont été d'ailleurs détruites parfois même de son vivant. La fameuse sculpture monumentale équestre, la statue équestre de Ludwig Sforza, etc. Ça, c'est des œuvres qu'on peut imaginer, on a des dessins. Qu'est-ce qu'il en est de ces œuvres, finalement, de Léonard, dont on sait qu'elles ont existé, mais qu'on n'aura jamais?
Alors, le cheval, il n'a fait que le cheval. Mais c'était un cheval gigantesque, en terre. Et les soldats français à Milan s'en sont servis de cible, et ça a été la fin du cheval. Alors, on a des petits modèles de chevaux dont on pense qu'ils reflètent le cheval, ou en tout cas des esquisses pour ce cheval. L'ambition de Léonard était énorme, parce que son idée d'origine, c'était de faire un monument équestre avec un cheval qui se cabre, ce qui était, à l'époque, irréalisable, comme beaucoup de projets de Léonard. Il imaginait des choses dont il savait, dont il comprenait qu'elles étaient pratiquement irréalisables, mais ensuite, il cherchait à trouver les moyens, il réfléchissait sur comment est-ce qu'on pourrait arriver à développer la technique qui permettrait...
Donc, mélange constant entre l'art, les sciences, la technologie, Exactement. Les humanités. Et au fond aussi, tout projet routinier l'ennuie. Il privilégie toujours la créativité, une curiosité, une imagination passionnée. Avec le prix à payer de ça, c'est aussi l'abandon d'un certain nombre d'œuvres non terminées, non achevées.
Le terme le plus prégnant, je dirais, c'est l'expérience, l'expérimentation, dans le sens de... d'essayer de faire certaines choses, mais aussi d'observer.
Il fait des spectacles, il fait les costumes, les décors, les machines de scène pour le théâtre, des spectacles païens d'ailleurs, de divertissement, il fait les effets spéciaux, il est ingénieur militaire,
il fait des villes. C'est visiblement quelqu'un qui voulait épater. Hein. Et donc là, il y a un côté magicien, le côté magicien qui est très clair chez Léonard.
Et puis tout ça dans des carnets très importants, 7200 pages existent encore, qui survivent de ce qu'on appelle ses notebooks, donc ses carnets, où là il y a tout, il y a à la fois des to-do lists, comme on dit, où il va dire ce qu'il doit faire, il parle de sa vie privée, peu, mais parfois, liste des choses qu'il veut apprendre, d'une richesse incroyable,
oui,
évidemment.
Oui, ses observations, et parfois, il est assez dit, on se rend compte maintenant, il n'est pas toujours facile de dire ce qui est effectivement ce de lui, ou des choses qu'il a reprises, qu'il a copiées, parce que disons des notes de lecture, des choses qui l'ont frappé et qu'il enregistre.
Et parce qu'il a eu des passions après pour l'hydraulique, quand je disais qu'il était autodidacte, c'est qu'il a appris tout seul à 40 ans le latin et le grec, parce qu'il avait toujours cette espèce de complexe d'infériorité par rapport à d'autres scientifiques. À chaque fois qu'il arrive dans une cour, il trouve qu'il n'est pas assez chic finalement.
Oui, il avait probablement appris le latin un peu. Enfant, je pense, mais parce qu'il était quand même de bonne famille, même s'il était bâtard. Mais
illégitime, tout au moins.
Illégitime, ben c'est voilà. Illégitime et bâtard. C'est une distinction que je laisse.
De langue. Alors nous sommes en janvier 1963, et là on va voir la Joconde qui voyage. Elle va pas beaucoup voyager, mais elle voyage cette année-là. Elle est arrivée aux États-Unis pour plusieurs mois de présentation à la National Gallery à Washington, puis au Metropolitan Museum de New York. André Malraux, alors ministre de la Culture, a voyagé avec elle à bord du paquebot France pour la protéger. Elle a d'ailleurs traversé l'Atlantique dans un coffre-fort. Voici donc Mona Lisa en Amérique, et André Malraux, face à John Kennedy et Jackie Kennedy, se lance dans un discours dont il a le secret. J'ai choisi de diffuser un long extrait de ce document d'archives époustouflant, le discours de Malraux, suivi de celui de Kennedy, immensément émouvant tous les deux, en pleine guerre froide. Vous admirerez Kennedy qui répète ce que Malraux lui a confié sur les GIs et les boys, mais ne s'en laisse pas compter. Superbe exercice de soft power pour le coup, qui est ici en réalité un message ironique à De Gaulle. L'Amérique, surtout par la voix de son président, qui sera d'ailleurs assassiné quelques mois plus tard, confirme qu'elle veut devenir une grande puissance culturelle. On restera une force culturelle indépendante, dit Kennedy. Les deux discours que l'on va entendre pendant environ 9 minutes ont été diffusés initialement sur Paris Inter le 9 janvier 1963. Le journaliste et traducteur est Michel Texier, une archive de l'INA. Tendez bien l'oreille, le son est d'époque, mais c'est à mes yeux l'un des plus grands discours, l'un des plus beaux discours de toute l'histoire de la politique culturelle.
Ici Michel Texier qui vous parle de la National Gallery de Washington. 1500 à 2000 personnes sont massées depuis trois quarts d'heure, une heure, dans ce vaste hall du musée, fermé à son extrémité d'une double tenture de velours pourpre. Le tableau de la Joconde est au centre, posé lui-même sur un chevalet drapé de pourpre. À sa droite, le drapeau français, à sa gauche, le drapeau américain. L'attente a été très longue et quelques dames en robe du soir donnent des signes de fatigue évidents. Les hommes en smoking obligatoire se haussent sur la pointe des pieds pour apercevoir le président et Madame Kennedy, Monsieur et Madame Malraux, l'ambassadeur de France et le secrétaire d'État américain ainsi que leurs épouses qui sont sur une petite estrade de part et d'autre du tableau faisant face à l'assistance. Monsieur Dinrosque a donné la parole à Monsieur André Malraux.
Monsieur le Président. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Gloire mystérieuse qui ne tient pas seulement au génie. D'autres portraits illustres peuvent être comparés à celui-là. Mais chaque année, quelques pauvres folles se croient Mona Lisa, alors qu'aucune ne se croit une figure de Raphaël, de Titien ou de Rembrandt. La possession des chefs-d'œuvre impose aujourd'hui de grands devoirs, chacun le sait. Vous avez bien voulu, Monsieur le Président, parler d'un prêt historique, pensant peut-être aux sentiments dont il témoigne. Il est historique aussi en un autre sens qui vous fait grand honneur. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis, je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. Par vous, Monsieur le Président, et par Madame Kennedy, toujours présente lorsqu'il s'agit d'unir l'art, les États-Unis et mon pays, la plus puissante nation du monde rend aujourd'hui le plus éclatant hommage qu'une œuvre d'art ait jamais reçu. Soyez-en liés tous deux au nom des artistes vivants, au nom de tous les artistes sans nom qui vous en remercient peut-être du fond de la grande nuit funèbre. Un dernier mot. On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Ils sont réels, bien qu'exagérés. Mais ceux qu'ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Romanche, sans parler de ceux qui les avaient précédés 25 ans plus tôt, étaient beaucoup plus certains. Aux plus humbles d'entre eux, qui m'écoute peut-être, je tiens à dire sans élever la voix que le chef-d'œuvre auquel vous rendez ce soir, Monsieur le Président, un hommage historique est un tableau qu'il a sauvé.
Puis c'est le président Kennedy qui se place face au micro.
Mr. Secretary, Mr. Minister, Madame, ladies and gentlemen, I would like to repeat Mr. Malraux's last words, which paid, I think, our country a singular compliment. He said there has been talk of the risks this painting took by leaving the Louvre. They are real, though exaggerated. But the risk taken by the boys who landed one day at Arromanches, to say nothing of those who preceded them 25 years before, were much more certain. To the humblest among them who may be listening to me now, I want to say, without raising my voice, that the masterpiece to which you are paying historic homage this evening, Mr. President, is a painting which he has saved. Mr. Minister, we're grateful to you.
Je voudrais, dit le président Kennedy, répéter les derniers mots de Monsieur Malraux qui vient de décerner à notre pays un compliment exceptionnel. Le risque couru par ceux qui un jour ont débarqué à Arromanches et par ceux qui les ont précédés 25 ans plus tôt était des plus grands, certes. Aux plus humbles d'entre eux qui m'écoutent peut-être maintenant, je voudrais dire, sans non plus élever la voix, que le chef-d'œuvre auquel vous rendez hommage, un hommage historique ce soir, vous l'avez sauvé vous-même, Monsieur le Ministre, et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes aussi reconnaissants, dit le président Kennedy, de ce prêt qui nous vient d'un pays qui montre le chemin dans le domaine de l'art, c'est-à-dire la France.
In view of the recent meeting at Nassau, I must note further that this painting has been kept under careful French control. and that France has even sent along its own commander-in-chief, Monsieur Marot. And I want to make it clear that grateful as we are for this painting, we will continue to press ahead with the effort to develop an independent artistic force and power of our own.
Dans l'optique de ce qui vient de se passer à Nassau, je dois noter que ce tableau est resté sous contrôle entier de la France et que la France nous a même envoyé son commandant en chef dans le domaine artistique, M. André Malraux. Mais je dois dire aussi que nous entendons bien construire une force artistique à nous-mêmes et bien indépendante. Le président Kennedy poursuit en ces termes, Monsieur le ministre, la Joconde est la seconde grande dame que la France nous a envoyée après la statue de la liberté. C'est ensuite le rappel de l'amitié franco-américaine. Nos deux nations, dit-il, ont combattu du même côté quatre guerres durant. Chacune s'est délivrée d'un joug avec l'aide de l'autre. Et aujourd'hui, dans cette galerie, nous renouvelons nos engagements à ces idéaux de liberté et de démocratie qui nous unissent depuis tant d'années. Le président Kennedy rend hommage à M. Malraux, qui, dit-il en substance, a fait revivre pour notre époque l'idéal de la Renaissance en sa qualité d'écrivain, de philosophe, d'homme de lettres et de soldat. Il se félicite de ce que cet homme de la Renaissance vienne aux États-Unis comme ami et émissaire du président de Gaulle. Le président de la République française, dit M. Kennedy, a su saisir l'occasion de faire renaître la France, donnant ainsi l'exemple au monde d'aujourd'hui. Nous admirons, dit-il en substance, la pénétration d'esprit du général de Gaulle qui a su trouver dans le passé de la France l'inspiration de son avenir et de sa grandeur. Et le président Kennedy termine son allocution en ces termes.
We here tonight, among them many of the men entrusted with the destiny of this republic, also come to pay homage to this great creation of the civilization which we share. The beliefs which we protect and the aspirations towards which we together strive.
Sur ces derniers mots, les personnalités officielles ouvrent le défilé de plusieurs centaines de milliers de personnes qui, trois semaines durant, viendront admirer la Joconde à Washington. Ici Michel Texier qui vous parlait de Washington.
Mona Lisa, man, nothing named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile.
Mona Lisa, fille étrange, que veut dire ton sourire si troublant? Mona Lisa, mon bel ange, ce mystère attire à toi tous les amants.
À l'instant, deux morceaux célèbres signés Tino Rossi et juste avant Julio Iglesias, saluant tous les deux la beauté de Mona Lisa. Vous avez épargné Petit Papa Noël par Tino Rossi, mais on avait son Mona Lisa. Des dizaines d'artistes, Henri Zerner, donc, ont chanté Mona Lisa, des centaines sans doute. Comment est-ce qu'on explique à la fois un phénomène mondial d'amour aussi persistant sur tous les pays et à toutes les époques? Et ça renvoie peut-être à la perfection aussi, à la manière dont Léonard de Vinci a travaillé et qui explique une pérennité si longue.
Mona Lisa est un cas spécial et on l'a vu, le caractère de star de Mona Lisa est une chose qui s'est construite au cours des temps. Et André Chastel, dans son livre « L'illustre incomprise », on parle très très bien, il explique très bien le... Comment ça s'est organisé. Quant à Léonard lui-même, d'abord, on a l'impression, quand on lit non seulement Vasari, mais aussi les quelques... Il n'y a pas énormément de choses entre eux, mais tout de même Lomazzo, quelques autres auteurs, on a l'impression que Léonard était déjà une star de son temps, dans un sens plus que Michel-Ange, dans la mesure où où Michel-Ange était un très très illustre artiste, mais Léonard était on dirait aujourd'hui un people. C'était plus qu'un artiste, c'était un personnage, visiblement. Alors, tout ça a été supporté par autre chose, c'est-à-dire que ça n'était pas seulement un personnage. Et c'est quelqu'un de totalement original à son époque, parce qu'il est, il veut toujours partir de l'expérience, de l'observation. Et ça, il le dit. Alors, il y a un texte que je connais à peu près par cœur. Il dit, la nature commence par les principes, et ensuite, la réalisation. L'artiste doit aller en sens inverse, c'est-à-dire que il doit observer la matière afin d'arriver au principe. Et je pense que là, c'est toute sa pensée est là. Ce qui est fondamental pour lui, c'est l'observation. En même temps, c'est un personnage qui a une extraordinaire fantaisie, extraordinaire invention, mais surtout imagination. C'est-à-dire que pour voir, pour observer, il faut en fait imaginer. Et c'est là où imaginer, ça n'est pas seulement une chose cérébrale, imaginer, c'est aussi mettre en image. Et donc, le dessin, surtout le dessin, mais aussi la peinture, est une façon d'appréhender le réel pour arriver au principe de la nature. Et là, il y a tout ce travail, tous les manuscrits, n'est-ce pas? Alors, chez Léonard, il y a d'une part ce mythe, un mythe de Léonard, mais il y a aussi un artiste et un penseur, et tous les trois sont complètement imbriqués. Et ce qui le rend fascinant, c'est précisément ça, ce qui le rend totalement hors norme, c'est cette combinaison des trois.
Vous l'avez dit, au cours de sa carrière, il n'a jamais, disons, bridé son imagination et il ne s'est jamais dit, puisque ce n'est pas réalisable, je ne le fais pas, c'était plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous l'avez dit, c'est une figure mythique, c'est en tant que ça qu'il est unique, mais il y a eu des Brunelleschi juste après lui, hein, Michel-Ange, avant lui, il y a eu un Donatello. Qu'est-ce qui aussi, dans cette Italie, mène à une telle concentration de génie? Lui en est probablement l'apogée, la pierre angulaire, c'est le centre de cette ère du génie. Mais comment c'est possible, en si peu de temps, tant d'hommes, dans si petit endroit, qui est celui du centre de l'Italie?
Alors ça, c'est quelque chose qui a intrigué beaucoup de monde, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais c'est tout de même à Florence qu'on invente la banque. Les Médici jouent tout de même un grand rôle, et ce sont des banquiers, tout ça. Et donc, il y a probablement un aspect simplement économique. Alors, vous direz, pourquoi est-ce qu'on invente la banque justement à Florence à ce moment-là? Des choses dans l'histoire qu'on n'explique pas, mais qu'on observe sans les expliquer. Il y a peut-être des gens qui savent le faire, mais... à moi.
L'essayiste Walter Isaacson vient de signer, de publier une biographie très commentée de Léonard de Vinci, après celle qu'il avait signée sur Albert Einstein et Steve Jobs. Il revient dans cette biographie sur la nature, presque un peu celle qui va annoncer, je dirais, l'expérimentation, l'innovation, le travail collectif, en équipe, le coworking, presque à l'ère d'aujourd'hui et du numérique et des start-up. Prendre des risques chez Léonard de Vinci, échouer, réessayer, devoir gagner sa vie, peu à peu chercher sa voie, VOIE, afin de trouver des solutions pour les problèmes qu'il pose, ce qu'il mène à l'invention de l'aviation avec ses machines volantes, ce qu'il mènera aussi à tout un tas d'activités, puisqu'il va à la fois multiplier les emplois. On parle de schlasher aujourd'hui, mais au fond, on est à la fois inventeur scientifique, peintre, fabricant d'objets de guerre, urbaniste, etc. etc. Walter Isaacson, que nous avons interviewé cette semaine, revient sur les raisons qui lui ont fait écrire cette biographie de Léonard de Vinci dans ce rapport justement à la question de l'expérimentation et de l'innovation. Walter Isaacson. J'ai écrit durant ma carrière sur de nombreux génies créatifs. Benjamin Franklin, Steve Jobs, Albert Einstein. Et ce que j'ai appris avec eux, c'est qu'ils sont tous intéressés par un très large éventail de sujets. Ils s'intéressaient aux humanités, aux arts, aux sciences, aux technologies. Et la personne qui incarne le plus tout ça historiquement, c'est Léonard de Vinci. Il est le personnage de l'histoire qui a voulu tout apprendre, apprendre tout ce qu'il était possible de savoir à propos de tous les sujets possibles. Et je pense que cette capacité à être curieux à propos de tous les sujets au monde l'a aidé à voir la structure de la nature et ça a fait de lui le génie le plus créatif de l'histoire. La chose excitante à propos de Léonard de Vinci aujourd'hui, c'est qu'au moment où on fête le 500e anniversaire de sa mort, on va avoir une exposition impressionnante sur lui au Louvre en 2019. Et ça va rassembler beaucoup de ses peintures, de ses dessins. Et ça va nous donner l'occasion d'apprécier les connexions que Leonardo a fait entre les arts, l'ingénierie et la science.
Pourquoi Léonard de Vinci est encore de nos jours un modèle en termes d'innovation ?
Leonardo da Vinci was able to mix art and science.
Léonard de Vinci était capable de mêler l'art et les sciences. Il aimait à la fois l'ingénierie et la peinture. Et ça a fait de lui quelqu'un de très moderne, car il a pu réaliser un travail transdisciplinaire. Il s'intéressait à tout ce qui concernait la nature, et ça a fait de lui le génie le plus créatif au monde.
Quelle était la façon de travailler de Léonard de Vinci ? Que c'était plutôt du travail d'équipe, format d'hackathon, ou plutôt une forme d'expérimentation.
Leonardo da Vinci believed very much in collaboration and teamwork.
Léonard de Vinci croyait beaucoup en la collaboration et au travail d'équipe. Il avait de nombreuses équipes pour travailler sur une pluralité de sujets. Il a travaillé avec des mathématiciens célèbres et même avec des anonymes, aussi bien avec des artistes que des architectes. Il avait aussi un studio dans lequel il avait de nombreux étudiants et donc il était capable de créer de vastes équipes qui ont participé activement à son travail.
Est-ce que Léonard de Vinci a eu besoin de travailler ailleurs juste pour gagner sa vie ?
Leonardo often did not finish his paintings.
Souvent, Leonardo n'a pas terminé ses toiles. Il n'a souvent pas honoré les commandes pour le travail qu'on lui avait confié, car il n'était pas motivé par l'argent. Il n'est jamais devenu très riche, et il était toujours à la recherche du bon prince ou du roi idéal qui deviendrait son mécène. Mais malheureusement pour nous, l'argent l'intéressait peu. Il a laissé une bonne partie de ses œuvres inachevées.
Comment est-ce que Léonard de Vinci faisait ses expériences ?
Il adorait être un disciple de l'expérience. C'est ce qu'il disait. Pour le dire autrement, si on lui enseignait quelque chose, il disait « Laissez-moi essayer, laissez-moi expérimenter ». Il aimait expérimenter, même avec l'eau qui coule, disséquer des corps humains pour voir les flux sanguins, disséquer des yeux humains pour comprendre l'optique. Il a réalisé énormément d'expériences de ses propres mains durant sa vie. Un dernier mot peut-être, Henri Zerner, sur Léonard de Vinci, que vous vouliez ajouter sur ce portrait évidemment inachevé. Nous-mêmes, d'autres émissions auront lieu tout au long de l'année 2019, j'imagine, sur Léonard de Vinci.
Alors, ce qui me frappe en particulier, c'est sa façon d'utiliser l'instrument, surtout du dessin, pour rendre le réel, mais en même temps, l'imaginaire. Et on le voit bien, je pense, dans les dessins anatomiques. D'abord, il a dit qu'il avait disséqué je ne sais combien de cadavres. Vraisemblablement, c'est très exagéré, parce que c'était interdit, et on ne se procurait pas des cadavres si facilement. Mais il a certainement observé très exactement beaucoup d'aspects de l'anatomie. En même temps, on trouve des dessins, par exemple celui de la matrice féminine avec un embryon, qui est faux. C'est maintenant. Il n'avait pas d'accès. Il ne pouvait pas observer une matrice féminine, mais il l'imagine. Il l'imagine de façon fausse, mais totalement convaincante. C'est-à-dire que son dessin vous donne l'impression qu'il l'a vu. Et ça, je pense que c'est fondamental pour comprendre Léonard, ce jeu entre l'observation et l'imagination et la fantaisie.
Merci infiniment à vous, Henri Zerner. Vous avez signé notamment le livre La Renaissance en France, l'invention du classicisme chez Flammarion, sans oublier de nombreuses monographies, Géricault ou Raphaël par exemple, et prochainement un livre sur Ingres, ainsi que d'innombrables essais sur l'histoire de l'art et notamment un article intitulé La vision de Léonard dans la New York Review of Books en septembre 1997. Pour préparer cette émission, j'ai lu et utilisé l'ouvrage de Walter Isaacson dont on vient de parler, Léonard de Vinci, en anglais. L'édition française de ce livre paraîtra le 7 mars prochain aux éditions Quantum. Nous recommandons également l'ouvrage de référence de Kenneth Clark, Léonard de Vinci chez Penguin, et l'essai sur la Joconde signé par André Chastel sous le titre L'illustre incomprise chez Gallimard. Toutes ces références, les livres cités ce soir, sont à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Je remercie également les équipes de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui nous ont aidés à préparer cette émission, en particulier pour les archives sonores. David Lavoie a réalisé l'interview et la traduction de Walter Isaacson. Soft Power, dans un instant, la seconde partie de l'émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous parlerons ce soir de l'éthique des entreprises technologiques et nous serons pour en débattre avec Amel Guiton de Libération et Idole de Perse de l'association Le Mouvement.ONG. Et dans un instant à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
C'est Guillaume Huguet, mon invité innovation. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication et il s'est posé cette question dans sa thèse. Est-ce que YouTube a transformé la musique ?
Nous y répondrons. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone et désormais également sur Spotify. Tout cela à suivre après, encore une fois, Mona Lisa, cette fois dans la version de 2017, extrait de l'album Nat King Cole and Me, Gregory Porter.
You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely?
À l'instant, Gregory Porter, une version de 2017, Mona Lisa.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Guillaume Huguet.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette case invité innovation. On termine cette année avec la jeune recherche. La jeune recherche, c'est vous, puisque vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et que vous êtes l'auteur d'une thèse qui tente de répondre à cette question. C'est ça, est-ce que YouTube a transformé la musique? Quel est le titre exact de cette thèse?
Alors, le titre exact, c'est Métamorphose de la musique et capitalisme médiatique au prisme de YouTube 2005-2018.
Alors, je vais commencer par une question très idiote. On l'a entendu, 2005-2018, pour YouTube, c'est plus qu'une vie, c'est plusieurs vies, c'est presque quasiment une ère primaire en elle-même. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire que vous aviez envie de travailler sur ce métamorphose de la musique? Pourquoi vous avez ciblé YouTube spécifiquement?
Ouais, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur les formes de la musique en 2012 et je travaillais un peu sur le streaming vidéo et ça m'intéressait particulièrement de savoir ce que devenait la musique dans des sites qui mettaient en avant la vidéo, le rapport à l'écoute, tout ça. Et c'est un peu le moment aussi où il y avait beaucoup de débats sur les modèles éditoriaux et économiques du streaming et il y avait une foule de sites qui était difficile de réunir et il y avait en commun ce petit objet, le player. Donc je suivais un peu le player, je me disais mais alors on n'arrive pas trop à savoir à délimiter les catégories entre les sites, je vais me baser sur cette forme et alors le player YouTube il est devenu iconique et en 2013, donc c'est-à-dire un an après que j'ai commencé un peu ce travail de veille, dans les études d'usage en France, notamment les études d'usage menées par la Hadopi, YouTube devenait la première destination musicale pour l'écoute en France. Et je me suis donc à la fois, c'était les deux raisons, c'est-à-dire que va devenir la musique sur un site qui n'a pas l'air fait pour ça, qui a l'air généraliste, qui a l'air de mettre en avant la vidéo. Et la deuxième raison, c'est quand une entreprise comme ça devient hégémonique, qui a l'air d'être le premier site pour consulter de la musique, pour l'écouter, c'est forcément intéressant de se demander ce qui se passe sur ce site en particulier.
Mais alors justement, c'est très intéressant parce qu'évidemment à l'époque, les grands mastodontes du streaming musical n'existent pas. Enfin, en tout cas, s'ils existent, ils sont absolument pas majoritaires, Spotify. Qu'en est-il aujourd'hui de la place de YouTube dans l'écoute de la musique en 2018?
Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des pratiques, c'est toujours un leader. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté qui est maintenue avec YouTube sur est-ce qu'on le fait rentrer dans les analyses de marché qui concernent le streaming musical en particulier, ou est-ce qu'avec son statut plus généraliste, en fait, on le met à part. Et donc, dans les études socio-économiques, il y a toujours, en fait, un débat sur, on va dire, le cadre du marché. Qu'est-ce qu'on définit comme étant le marché? Donc, j'ai travaillé en partie dans ma thèse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on présente comme étant le marché de la musique en ligne. Avant mon travail, avant l'émergence du streaming, on parlait beaucoup d'Apple et de l'achat de singles, et on disait c'est ça le nouveau modèle. Ensuite, on a parlé du streaming. Aujourd'hui, on parle de différentes applications. Et les contours de ce marché évoluent en même temps que les stratégies des acteurs. Donc YouTube est certes un objet dominant pour l'écoute, les pratiques d'écoute, la présence de catalogues, mais le marché est jamais fixé. D'ailleurs, les économistes et les chercheurs, on travaille à créer les contours de ce marché nous-mêmes.
Bien sûr, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir, et toujours avec cette question dans Soft Power, c'est que la recherche, on le voit bien, face à l'évolution extraordinairement foudroyante de tous ces acteurs, sa rapidité et leur porosité et leur flou a du mal, en tout cas, a toujours des difficultés, mais c'est ça qui est très beau, construit les outils pour l'appréhender. D'ailleurs, vous mettez au centre de votre thèse cette notion de force et de flou pour essayer justement de définir cette position de YouTube dans son discours même sur son rapport à la musique. Est-ce qu'il est ou pas un acteur musical, un acteur du marché de la musique?
Oui, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vrai que c'est que la place de la musique sur YouTube, elle est à la fois dominante dans des études d'usage, mais... Et donc on a fini par la reconnaître, mais elle n'est pas forcément affichée dans les pages depuis le départ. Et en fait, j'ai fini par le préciser en disant qu'elle avait eu longtemps un statut incident, c'est-à-dire que la musique était là, le son était là, mais on ne pouvait pas garantir que c'était un site musical en particulier. J'ai essayé d'analyser tous les indices, à la fois dans les vidéos, dans la manière dont elles ont pu être éditorialisées sur le site, dans le discours de YouTube sur sa stratégie à destination des internautes, etc. Le fait que la musique ait un statut comme ça plus ou moins accessoire, plus ou moins secondaire, et puis à mesure qu'on se rapprochait de la période un peu plus récente, et notamment à partir de 2015, un statut plus opportun de la musique, c'est-à-dire la musique comme réelle opportunité à part entière pour YouTube, et à mesure aussi que le marché du streaming se consolidait, cette dimension opportuniste très très tactique, hein, on parle avec certains collègues, on parle de stratégie de la tactique, où YouTube voit qu'en fait pour son business model émergent, c'est-à-dire la publicité, les données, en fait la musique va être un domaine, un terrain d'expérimentation particulièrement intéressant.
Mais parce que c'est ça, parce que pendant longtemps ça a été, notamment au regard des nombreuses questions posées par le droit d'auteur, et ce pendant plusieurs années, parce qu'aujourd'hui YouTube a passé des accords, et d'ailleurs vous le rappelez je crois dans votre thèse, de manière beaucoup plus, disons, évidente et fluide et presque un peu par-dessus la jambe avec les majors, bien avant même qu'elle conclue ce type d'accord avec des plateformes comme Spotify par exemple. YouTube était dans cette espèce d'ambiguïté, on n'est qu'un outil, on est neutre en fait, on n'est qu'une plateforme technique, on n'est pas un acteur majeur, on n'a pas de stratégie éditoriale. En réalité, n'ont cessé d'osciller entre les deux, dans le discours au moins.
Oui, complètement. En fait, ce phénomène, je l'ai abordé d'un point de vue lexical aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé, par exemple, de plateforme, qui est un mot très ambigu, parce que tantôt il désigne la technique, tantôt il désigne un modèle économique, et on oublie un petit peu la manière dont ça se construit d'un point de vue des formes, du design, du média, les relations que ça organise concrètement, etc. Mais surtout, en fait, le mot qu'on utilise le plus pour parler de YouTube et que YouTube utilise à propos de lui-même depuis longtemps, c'est le mot de service. Et dans le mot de service, il y a à la fois la survalorisation d'une médiation, c'est-à-dire on est capable de fournir quelque chose de précieux, et en même temps, il y a cette idée très neutralisante, très très technique.
On ne fait que fournir un service.
Et on ne fait que ça, voilà. Ouais. Et en fait, c'est le mot qui est utilisé même dans l'histoire américaine pour les infrastructures téléphoniques, radiophoniques, la télévision depuis des années. Et ce mot anglo-saxon, il est passé en français avec cette espèce d'ambiguïté entre l'infrastructure et le média, en fait.
Vous parlez justement, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec YouTube, si d'ailleurs, 8 ans, 13 ans plus tard, je vous pose la question, est-ce que YouTube a vraiment transformé la musique, vous me répondez quoi?
Alors moi, en fait, une partie de mon travail, ça a été de montrer qu'en fait, on ne pouvait pas répondre de manière univoque à cette question, mais surtout qu'il fallait être beaucoup plus précis, parce qu'il y avait extrêmement de niveaux auxquels ça se jouait. Donc, moi, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que cette question elle-même, elle participe du déterminisme technique. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans ce monde de l'innovation, dans une idée qu'en fait, il fallait qu'il y ait des acteurs, des entreprises ou des technologies qui changent la culture. Et pour pouvoir dire ça ou pouvoir se poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on pense que c'est plus les personnes qui changent la culture, c'est plus des habitudes culturelles, des savoirs, mais c'est des objets. Donc déjà, où c'est des forces économiques. Et déjà, là-dedans, il y a quelque chose d'un peu curieux. Après, si on y regarde un peu plus concrètement, et moi j'ai favorisé le temps long, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de réactivation de modèles industriels, qui étaient les modèles d'une économie de l'innovation qu'on a un peu oubliée, qui est celle du début du 19e siècle, où des gens comme, dans la musique enregistrée notamment, des gens comme Edison, utiliser des idées scientifiques pour en faire des objets techniques, et à partir de ces objets techniques, pour les vendre, en fait, développer des marchés médiatiques, se demander à partir de cet appareil, le phonographe, le transistor, comment
qu'est-ce
on va vendre ça
dessus
au public. Et donc on fait la radio et on fait le phonographe musical. Et YouTube, dans ce sens, c'est des serveurs d'émergement, et on se demande ce qu'on va en faire. Et donc il y a une grosse ressemblance avec des choses qui sont assez anciennes. De la même manière avec l'industrie musicale, le droit d'auteur. Bien sûr, il y a des changements, il y a un modèle assez particulier de YouTube, mais ça réactive, par exemple, l'industrie de la reprise, qui a précédé l'industrie de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on encourageait, en fait, les droits de redevance pour les auteurs plutôt que la vente directe de support. Et donc, en ça, il y a beaucoup de choses qu'on identifie comme nouvelles, mais tout dépend du point de référence qu'on prend. Si c'est par rapport à 5 ans, il y a 10 ans, oui. Si on est dans l'histoire longue du capitalisme, c'est plus nuancé.
Et vous parlez de micro-politique des formats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, et ça, je crois que c'est ce qui est très important dans votre thèse, on a ces mastodons, on a des espèces d'études macro, et pourtant, vous dites que les changements et les choses déterminantes, elles se jouent à petite échelle, en fait, même sur YouTube.
Oui, en fait, ce qui me paraît très important, alors, quand je dis micro-politique des formats, déjà, il faut prendre la notion de format, elle est à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, on néglige souvent, quand on parle d'économie de l'innovation, on a un biais technique et on a un biais économique. Et donc, en fait, on ne pense pas au travail de conception, de design, d'imagination qui se joue à la fois dans les formats techniques, dans les formats esthétiques et dans les formats éditoriaux. Donc, tout ça, c'est des ressources d'innovation, et c'est là que le sens de ces objets se construit, et c'est ce qui va leur permettre de devenir éventuellement puissants, influents. Et ensuite, pourquoi micropolitique? Parce que c'est vrai qu'on va avoir des discours de changement de la part de YouTube un peu radicaux, etc. Et en fait, par exemple, on va dire, on a un nouveau modèle du droit d'auteur qui va mettre tout le monde d'accord, et ensuite il faut aller regarder dans le détail des algorithmes comment finalement, par exemple, l'algorithme de droit d'auteur favorise les maisons de disques en particulier.
Content ID, par exemple, pour ne citer que...
Voilà, Content ID qui est un exemple de ce phénomène. Ouais.
Et par ailleurs, on peut le rappeler quand même, il y a des tendances non prévues et effectivement qui continuent d'exister sur YouTube. Il y a des petits acteurs ou des nouvelles sensibilités qui continuent d'exister. Il y a une économie de la reprise qui est très forte et il y a ces explosions de ce qu'on appelle les YouTubeurs, de l'ASMR par exemple.
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec YouTube par rapport à d'autres sites dominants dans l'écoute de musique aujourd'hui, c'est qu'il a su profiter de la créativité des internautes. Et même si aujourd'hui, aller sur YouTube, c'est d'abord avoir des recommandations qui sont très proches de ce qu'on va pouvoir trouver à la radio par ailleurs, avec des biais de confirmation, etc.
En fait, très mainstream.
Voilà, avec le principe d'hébergement qu'il y a derrière, c'est vrai que si on est dans une démarche un peu plus active, on pourra forcément y trouver des cultures sensorielles ou musicales. Par exemple, le fait d'écouter ces petits sons qui vous titillent, qui vous titillent le cerveau, voilà, l'ASMR, qui sont pas des choses spécifiques à YouTube en fait, qui ont été construites dans des forums, dans des blogs par ailleurs, mais qui trouvent sur YouTube un bon endroit pour de l'hébergement gratuit et puis pour s'exprimer.
Et donc, YouTube va continuer à transformer la musique et la musique va continuer à survivre à YouTube. Vous le dites, c'est effectivement un opportunisme tactique. Évidemment, on suivra la manière dont YouTube continue à construire et à déconstruire au fil des mois et des années son discours sur la musique. Merci beaucoup à vous, Guillaume Meugier. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Voilà, le club de la presse numérique, nous parlons ce soir de l'éthique des entreprises technologiques pour terminer ce soft power du 23 décembre. Et nous sommes pour en débattre avec Amel Guiton de Libération.
Bonsoir.
Et Elliot Lepers de l'association Le Mouvement.ONG.
Bonsoir.
Alors avec vous deux, on va parler de l'éthique des entreprises du secteur des technologies. Quels sont les critères à vérifier? Pourquoi les entreprises ont intérêt à investir dans l'éthique? Et je partirai d'un classement international des entreprises les plus éthiques qui a été élaboré par l'organisation Ethisphere qui se base sur plusieurs critères. Le principe étant que l'éthique favorise ou favoriserait au conditionnel le business. Ils ont été jusqu'à définir un bonus éthique, c'est-à-dire la part de croissance dans la capitalisation boursière d'une entreprise qui peut être attribuée à l'éthique. Aux États-Unis, on serait à près de 5% sur 3 ans et presque 11% sur 5 ans. Alors, première question, pourquoi les entreprises, Edouard Lepers, auraient ou ont intérêt à avoir un comportement éthique?
Les entreprises sont des acteurs sociaux, donc elles ont un rôle à jouer dans la société, dans la vie de la cité. Elles interagissent avec des citoyennes et des citoyens au quotidien. Elles ont des rôles qui sont éminemment politiques, à minima parce qu'ils sont économiques, mais aussi parce qu'elles sont présentes, et notamment dans le numérique, dans nos vies quotidiennes, parce qu'elles régissent des données, parce qu'elles parfois ont des influences sur des décisions qui derrière ont des conséquences sur nos vies. Donc effectivement, elles ont un intérêt d'abord parce que elles ont un intérêt pour nous. Nous, on a un intérêt à ce que les entreprises aient un comportement éthique et répondent à des éthiques. Et ensuite, moi, je pense fondamentalement que leur futur dépend de leur éthique aujourd'hui, parce qu'on voit bien que, à la fois commercialement parlant, l'éthique devient un critère de choix. Donc c'est déjà un premier sujet. Les entreprises comme Cambridge Analytica, par exemple, avec le fameux scandale Cambridge Analytica, qui ont montré à la face du monde en quelques semaines qu'elles n'avaient aucune éthique, eh bien, ont été obligées de mettre la clé sous la porte. C'est un exemple. Il y en a d'autres qui ne suivent pas cette règle, mais en tout cas, c'est un des futurs des entreprises qui sont pas éthiques.
Amel Guiton, ça serait donc bien pour nous, pour les consommateurs, ça serait bien pour les salariés, mais ça serait aussi tout simplement un bon business d'une certaine manière.
Oui, et c'est d'ailleurs tout ce qui est toujours un petit peu compliqué en fait avec ce type de démarche, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il peut y avoir pour les entreprises un incentive entre guillemets, c'est-à-dire
une incitation
à être plus éthique, à faire effectivement attention à leur modèle de gouvernance, à la manière dont ils traitent leurs salariés, à la manière dont ils traitent leurs utilisateurs, etc. Et en même temps, on voit bien aussi que avec ce type de classement, on ne sort pas finalement de la logique de profitabilité au sens où l'éthique devient une manière comme une autre d'améliorer son business. Et du coup, c'est toujours intéressant d'ailleurs de regarder les critères. Moi, ce qui me frappe par exemple dans ce classement, c'est que est pris en compte le fait que les entreprises, par exemple, reversent à des œuvres caritatives, montent des fondations, etc. Mais on sait par exemple que les grands patrons de la Silicon Valley font beaucoup de dons de ce type, que ce soit Larry Page ou Mark Zuckerberg, etc. Alors même qu'on voit bien à quel point le business model de leurs entreprises peut être socialement extrêmement toxique. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi compliqué de trouver les bons critères pour savoir ce qui relève véritablement d'une démarche éthique de la part de ces acteurs-là.
Oui,
on a l'impression que c'est une vision assez anglo-saxonne en fait de l'éthique, à la fois dans ce qu'est l'éthique, c'est-à-dire le fait d'avoir une fondation philanthropique, quand bien même on ferait des profits de manière totalement irraisonnée, ça fait partie de la conception anglo-saxonne qui reste compliquée pour des utilisateurs, même conception européenne, et effectivement l'éthique comme un asset, comme un atout financier. Effectivement, sur la question des entreprises de l'Internet, une mauvaise manière de le dire, mais ces grands GAFA dont on parle, et même aussi tous ces acteurs, Uber versus Taxify versus Marcel, etc. Est-ce qu'il manque pas aujourd'hui, moi c'est une question que je me pose, un acteur, un observateur, et pas ce type de classement, et qui serait capable aujourd'hui de, dis donc, d'énumérer les caractéristiques, éthiques ou pas, de ces entreprises, parce qu'on a l'impression qu'il y a peu de discours dessus. En tout cas, ces nouveaux acteurs du numérique, eux, ont des difficultés à parler de ça, de leur rapport éthique.
Bah, en fait, la réaction, on a l'impression qu'elle vient souvent de l'intérieur. Enfin, ces temps-ci, d'ailleurs, c'est ce qui est assez frappant. Je crois que c'est au moment du Black Friday, il y a des salariés d'Amazon qui ont fait grève pour dénoncer un certain nombre de pratiques à l'intérieur de l'entreprise. On voit bien que chez Google aussi, le fait qu'ils aient commencé à développer un moteur de recherche qui serait conforme aux règles de censure chinoise, par exemple, ça a provoqué une énorme réaction des équipes salariées, dont certains, y compris, ont pris la parole publiquement. Il y a eu une tribune de salariés de Google disant bah, on ne veut pas de ça, ce qui est d'ailleurs assez inédit parce qu'il y a aussi une culture du secret, une culture de l'opacité, une culture du silence dans ces entreprises-là qui est en train petit à petit d'être brisée. Donc en fait, il y a une réaction qui vient de l'intérieur. Les associations de consommateurs commencent à faire ce boulot-là aussi.
Pendant longtemps, elles les ont laissées de côté pendant longtemps, ces grandes entreprises-là.
Bah, ça commence petit à petit. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, sur la question des smartphones, on entend aussi de plus en plus de choses sur la manière dont ils sont produits, de manière évidemment délocalisée, là où le coût du travail, entre guillemets, est moins faible. Le fait que ça utilise des matériaux qui sont extraits dans des zones de conflit, etc. C'est des choses, quand même, dont on sent qu'elles commencent à monter parce qu'effectivement, ces objets font partie de notre quotidien. Et on voit, y compris dans les médias américains, hein, de plus en plus de chroniqueurs qui disent on peut aussi être un consommateur éthique en se posant la question du business model sur lequel reposent ces produits et ces applications qu'on utilise tous les jours. Donc moi, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'on assiste à une prise de conscience.
Et comment on les recycle ou on les recycle pas? Critique aussi très forte à l'égard de Starbucks, par exemple, critiquée pour sa gestion des salariés. C'était le cas notamment dans un documentaire récent de Arte, mais aussi pour la faible part de l'argent qu'ils gagnent et qui est réellement reversée aux producteurs de café. Sur ça, Elliot Lepeur, sur ce sujet, dans les critères établis par Ethisphere, on remarque l'absence de la préservation de l'environnement. Que peut-on attendre des entreprises sur les questions environnementales?
Effectivement, en fait, je pense que c'est un peu le problème de ces classements, c'est que souvent on évalue les plans d'action et on n'évalue pas forcément l'intention finalement ou le modèle économique et la compatibilité du modèle économique avec le respect de ces critères. Pour moi, il y a l'enjeu fiscal, l'enjeu social, la préservation de le droit du travail, quoi, l'enjeu de la propriété des données et de la vie privée et l'enjeu environnemental. Effectivement, sur le numérique en particulier, c'est une énorme hypocrisie parce que c'est très compliqué d'envisager des géants du web qui soient compatible avec le respect de l'environnement, parce que par principe, ils consomment tellement d'énergie, c'est leur modèle. Et nous, on consomme tellement d'énergie pour consommer leurs services que de toute manière, il y a un sujet de base, c'est qu'effectivement, Internet n'est pas fait pour être bon pour le climat. Donc après, on peut améliorer la performance des serveurs, on peut développer des technologies qui permettent d'alléger les contenus, on peut alléger le stockage et effectivement, tout le stockage qui s'amplifie de jour en jour, qui est sur des serveurs et qui sont à disponibilité immédiate à quelques secondes, c'est un enjeu majeur.
Y compris pour la blockchain, par exemple, la gestion des données a un impact écologique particulièrement critique.
Et c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est effectivement qu'on va vers des technologies qui sont plutôt de plus en plus consommatrices.
Gourmandes, ouais.
Exactement. Que vers ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire ce qui se passe un peu sur la voiture. C'est-à-dire qu'on est un peu sur l'inverse. C'est que sur les véhicules, on va vers des véhicules qui consomment de moins en moins, et l'évolution depuis 50 ans, c'est ça.
En même temps, il y en a de plus en plus, notamment en Chine, en
ça,
Inde.
Ça, c'est vrai. Sur le numérique, on a effectivement des technologies qui consomment de plus en plus.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un classement, finalement, des grandes entreprises les moins éthiques?
Je pense qu'il faudrait les deux. Il faudrait les entreprises les moins éthiques et puis aussi
Le bonus et le malus.
Bah, oui, non, mais ne serait-ce que pour inciter après les utilisateurs à faire leur choix, en conscience, parce qu'il y a probablement plein de gens qui ne savent pas forcément qu'il peut y avoir des alternatives plus vertueuses à des choses qu'ils utilisent tous les jours.
Zoé Saez.
Mais c'est ça, en fait, on a l'impression qu'il y a aussi un manque de... Mais c'est... Parce que en réalité, tous ces acteurs sont très jeunes, il y a un manque de connaissances. En l'occurrence, je fais part de mon expérience personnelle, c'est un débat que j'ai souvent, sur la question de la livraison de repas, par exemple, des livres où, effectivement...
Amazon versus les commerçants indépendants.
Ouais, celui-là, on le connaît bien, parce qu'en réalité, quand c'est un acteur numérique versus un acteur réel, les gens sont assez conscients. Quand c'est plusieurs services numériques, les uns avec les autres, on va prendre celui qui marche le mieux, celui qui est le plus mainstream, celui qui a l'air le plus simple, dont on se dit peut-être inconsciemment finalement si ça marche c'est que c'est pas si catastrophique et de toute façon si je veux me faire livrer je vais quand même avoir tendance à prendre le truc qui me livrera le mieux et au moins cher. Et là c'est comme si d'un coup toute la conscience éthique et sociale qu'on peut avoir, on peut taper sur Goodyear, mais on ne se pose pas la question sur des livres. Il y a quand même, j'ai l'impression aussi, une conscience politique du consommateur qui ne s'est pas construite assez vite au regard de la place que ces acteurs ont pris dans notre vie.
Eliott Lepers.
Je pense aussi qu'effectivement, beaucoup de ces services jouent un rôle d'intermédiaire. Et quand c'est un intermédiaire, c'est extrêmement dématérialisé. Et la seule relation qu'on a, c'est effectivement à l'interface homme-machine, c'est-à-dire à quoi ressemble l'application mobile, quel est le ton utilisé pour nous parler. Et donc, ça crée une forme de distorsion de l'image qu'on peut avoir de ces services-là. Et donc, qui nous empêche parfois d'interroger l'impact et la raison d'être même de ce modèle-là. Je pense qu'il faut revenir à cette source-là.
Amaël Guiton.
On voit qu'en fait la prise de conscience elle s'opère à mesure des scandales. Enfin c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'après Cambridge Analytica, on a vu apparaître le fameux hashtag Delete Facebook où tout à coup effectivement de plus en plus de gens réalisaient que ce que disent les défenseurs des droits sur internet depuis des années quand c'est gratuit c'est vous le produit, en fait c'est vrai. Mais on le voit aussi je crois apparemment dans la Silicon Valley, il y a eu des cas de harcèlement sexuel, je crois, chez Uber, auxquels un certain nombre de gens ont trouvé que l'entreprise ne répondait pas de manière assez nette. Et du coup, il y a eu un switch, entre guillemets. Enfin, il y a des gens qui ont basculé sur Lyft, par exemple, qui est un autre service équivalent. Et donc, effectivement, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un scandale qui éclate, donc tout à coup, on va s'interroger sur l'acteur qui en est à l'origine, et on va éventuellement chercher à passer à un autre.
Et on commence à avoir de la publicité de certains concurrents qui commencent à utiliser des arguments éthiques. Vous prenez le cas de Taxify, qui fait en ce moment de grandes campagnes de publicité dans le métro, qui dit « Nous payons nos impôts en Europe, nous offrons des primes à nos chauffeurs. » Et je ne sais plus quel est le troisième argument. Point. Taxify, c'est tout. Et c'est, je crois, dans mon esprit, l'un des premiers cas d'un acteur qui se lance en attaquant, sans le dire frontalement, un concurrent très établi qui est Uber, sur des enjeux uniquement éthiques, notamment en France, où on sait, probablement eux savent, que c'est des enjeux qui peuvent parler à des consommateurs relativement politisés.
Pour terminer, ça signifie finalement que les entreprises bien font attention à leur réputation.
Ah bah c'est oui, ça c'est clair que c'est devenu un élément hyper important, d'autant que effectivement on est aussi dans un moment où le name and shame entre guillemets est extrêmement efficace parce que ça va très vite.
Nommer et dénoncer
et on voit bien à quel point d'ailleurs Facebook en fait les frais. Ils ont essuyé un certain nombre de scandales sur leurs données au cours de l'année et vraiment ils sortent les rames pour essayer de reconstruire leur réputation. Donc il y a effectivement je pense une attention particulière parce que les choses se savent.
Et puis les scandales sont aussi les moments où on prend connaissance de l'absence d'éthique, parce qu'effectivement on a très peu d'éléments, sur la consommation réelle des serveurs de Facebook et de Google. On se souvient par exemple de Tristan Harris qui a fait un travail colossal pour expliquer les mécanismes d'addiction qui étaient développés dans tous les services numériques qu'on utilisait, et on a besoin de personnes de l'intérieur pour nous expliquer ça, parce que sinon effectivement on n'a pas accès à cette information. Et donc il y a un rôle énorme à jouer des lanceurs d'alerte pour qu'on soit au courant de toutes les dérives, pour qu'on puisse ensuite effectivement les combattre. Le décalage aujourd'hui il est ça, entre notre connaissance commune de ces dérives-là et la transparence dont on a besoin pour pouvoir les combattre.
Oui, et puis il faut aussi probablement faire un effort pour ne serait-ce que mettre en valeur aussi les alternatives vertueuses. On voit que certains acteurs émergent sur des modèles alternatifs. On a le cas de bien connu de Quant qui pour le coup...
Par rapport à Google, moteur de recherche
voilà,
français.
Et puis qui gagne de la réputation en disant « Nous, on n'exploite pas vos données personnelles. » Mais
leur permet de passer de 0,01 à 0,02.
Et on consomme moins sur les ordinateurs.
Et le travail colossal de Framasoft Microsoft qui développe des alternatives à chaque service commercial, notamment de Google, avec ce village gaulois de la dégooglisation d'Internet, c'est-à-dire que vous avez des alternatives libres pour chacun des produits qui nous espionnent et chacun des produits qui extraient la valeur de notre utilisation. Ça, c'est un travail absolument nécessaire et qui est assez balbutiement, même s'il y a énormément de choses qui sont faites, mais il faut maintenant massifier cet usage et massifier aussi l'usabilité de ces produits-là.
Bien, ben merci infiniment. On en reste là pour ce soir. Merci à vous, Amel Guiton, de Libération Idole de Perse, de l'ONG, lemouvement.ong. Vous pouvez retrouver cette chronique, ce débat sur le podcast de Soft Power, sur notre site France Culture, sur iTunes, sur Spotify et sur l'application podcast de votre smartphone. Dimanche prochain, nous nous intéresserons à Woodstock, dont on fêtera l'anniversaire en août 2019. Woodstock, 50 ans et toutes ses dents. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end, bonne fête également.